judaïsme pluriel. Une émission réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan, micro de Judaïsme Pluriel, pour une heure à passer en votre compagnie, comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h. Ce soir, un enfant du miracle et son devoir de mémoire. Avec Alain Londner.
Bonsoir.
Lorsque mon invité Alain Londner m'a proposé cette émission en me racontant succinctement son histoire, celle de sa famille, son enfance, la Shoah, la déportation, j'ai dit oui tout de suite, j'ai dit oui à l'ami, mais j'ai surtout dit oui tout de suite pour l'intérêt de cette histoire qu'il m'avait racontée. Alain Londner, c'est notre invité de ce soir, on ne le présente plus. C'est une figure à Marseille. On ne peut rester quelques instants avec lui dans la rue sans que 10-15 personnes qui nous croisent viennent le saluer, viennent l'embrasser. C'est vrai qu'il est très sympathique, il est très jovial. Il faut dire que Alain est toujours souriant. Et d'ailleurs, à son cabinet de dentiste, on oublie son mal aux dents en écoutant toujours les histoires drôles qu'il a à nous raconter. Alain aime bien les amis, il aime beaucoup les amis et il en a beaucoup. Il aime les sorties, il aime les voyages, il a même été figurant dans certains films. Bref, c'est un grand communicant.
Si on veut.
Et pourtant, ce qu'il a à nous raconter ce soir... sur sa famille, sur ce qu'il a vécu, sur la Shoah, les efforts qu'il a fait pour remonter, retisser le cours des événements qui l'ont tant marqué, eh bien, on voit que c'est un homme qui a beaucoup de recul et qui a un passé très certain. Au point de s'imposer, comme il le dit lui-même, un devoir de mémoire, et je cite, « Il fallait que je le fasse, c'est parfois le sentiment de prendre la place des déportés, mais il y en a moins et il faut parler. » Fin de citation. Il a vécu la culture ashkénaze, il a vécu la culture séfarade, mais tout ça, il va nous le raconter lui-même. Bonsoir Alain et merci d'être avec nous ce soir.
Bonsoir Roland, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditeurs.
Alors, si tu veux bien, on va commencer par une première question. Où es-tu né, quand es-tu né et dans quelles conditions?
D'abord, je voudrais raconter un petit peu une petite histoire où ma propre histoire a commencé. On m'a demandé il y a plus d'un an de faire un travail dans une école juive pour un forum des métiers. Bon, j'ai fait ce devoir et après l'année d'après on m'a demandé de venir parler de la Shoah. Et puis je me suis rendu compte en réfléchissant un petit peu que toute mon histoire et toute mon histoire familiale englobait un certain nombre de points de la Shoah, en passant par la Shoah par balle, la déportation, les justes, etc., que je vais développer un peu plus tard. Donc, pour me présenter, je suis un des rares personnes à être né ici en 1954 à Marseille, et je suis marié, j'ai une femme qui est relativement beaucoup plus connue que moi, j'ai deux enfants qui sont chacun mariés, et j'ai quatre petits-enfants. Je vais commencer comme on en avait parlé, par un peu l'histoire de ma famille maternelle. Et donc, ma mère est née en 1934 en Algérie, à Constantine.
Encore une Constantinoise.
Exactement. Et mais donc d'un père constantinois et d'une mère oranaise. Et mon grand-père était responsable d'une usine. Et c'est lui qui a de boissons. Et c'est lui qui avait fabriqué le Québec.
Ouais, le fameux Québec que tous les Algériens connaissent.
Exactement. Et bon, malheureusement, il n'a pas eu les droits de... Comment ça s'appelle? Des droits de... Comment ça s'appelle? Les royalties.
Mais
c'est fini. Bon. Et donc, il était à la tête d'une usine. Et en 1934, il faut savoir qu'il y a eu des pogroms à Constantine. Et qu'un de ses employés l'a prévenu. Et mon grand-père, ma grand-mère, ma mère et mon oncle sont partis précipitamment de Constantine pour venir se réfugier ici à Marseille. Mon grand-père a commencé à faire des petits boulots et après il est devenu serveur sur le vieux port et il travaillait avec d'autres garçons. Et dans ce bar restaurant. Donc le temps a passé depuis 1934, la guerre a éclaté, la Marseille était toujours quand même sous zone libre, et quand la Marseille est passée sous zone occupée, nous avons appris que ce garçon l'avait dénoncé, et la Gestapo avec les mains de la milice est venu chercher ma mère, mon oncle, ma grand-mère et mon grand-père à leur domicile la nuit, et on leur a dit voilà, il n'y a qu'une place dans la voiture, on va prendre votre mari, donc mon grand-père, et nous viendrons vous chercher le lendemain.
C'est un miracle.
C'est un miracle. Mais malheureusement, ça l'a pas été pour mon grand-père, puisque mon grand-père est parti directement à Drancy et après a été déporté à Auschwitz. Alors, pour revenir à ma mère, ma grand-mère et mon oncle, eux, ils ont été sauvés par une personne qui n'était pas juive, qui est devenue après la tante de ma mère. Et qui, grâce à des faux papiers ou des relations, a réussi à leur faire prendre le train pour envoyer donc ma grand-mère, ma mère et mon oncle dans la région de Limoges, plus précisément à Prayssac. Et là, ma mère avait déjà commencé auparavant des études de pharmacie. Elle est devenue préparatrice en pharmacie. Mon oncle a passé le bac et ils ont été aussi là-bas sauvés par une personne qui travaillait à la mairie et qui les a pris sous son aile et qui les a leur a fait passer la guerre. Et je raconterai un peu plus tard, lorsque je vais parler de mon de devoir de mémoire, comment on a rencontré toutes ces personnes et comment on a essayé de leur transmettre, de les remercier à travers différentes façons. Donc, ma mère est donc restée deux ans et demi dans cette région de Prayssac, à côté de Limoges et de Châteauroux. Et la guerre a cessé. Entre-temps, mon oncle était dans le maquis. Et ils sont rentrés, ma grand-mère, mon oncle et ma mère sont rentrés à Marseille. Et ma mère a repris ses études de pharmacienne. Et elle a fait, presque à la fin de ses études, elle s'est remise dans la vie estudiantine et elle a fait un camp d'étudiants. Mmh. Et c'est là où je vais m'arrêter pour le moment. Et je vais peut-être parler de l'histoire de mon
Exactement.
Père. Alors, l'histoire de mon père est quand même une histoire un petit peu tout à fait différente. Mon père était né en 1915 dans une famille très religieuse qui était à l'époque en Pologne, qui est passée après en Galicie.
Oui.
Après, donc ça faisait partie de la Pologne. Après, ça fait partie de la Russie et maintenant ça fait partie de l'Ukraine.
Oui.
Et donc mon père était issu d'une famille de 5 frères. Et il était dans une petite ville qui s'appelait Bourchine, à côté de Lvov. Et mon père était donc dans une école, d'abord était dans des yeshivotes, après dans un lycée. Et comme à l'époque, les juifs n'avaient pas le droit de faire des études, puisqu'il y avait le numerus clausus, non pas pour les places, mais pour pour la religion.
Et il avait un objectif.
Allez, mon père voulait devenir ingénieur agronome.
Donc, pour aller ensuite en
Israël. Donc après, il est venu ici en 1938 et il a commencé ses études d'ingénieur agronome. Et quand la guerre a éclaté, il s'est engagé dans l'armée française composée d'étrangers. Et là, par un miracle extraordinaire, grâce à des faux papiers, il a pris des papiers d'une personne qui était décédée, je me rappelle encore de son pseudonyme ou de son nom, qui était René Caron. Grâce à ces faux papiers, il est resté prisonnier de guerre pendant 5 ans en Allemagne. Alors imaginez une personne juive cachée au milieu des prisonniers de guerre, en ayant toujours peur d'être découvert et tout. Et il est resté 5 ans prisonnier de guerre. Après la guerre, il est retourné à Nancy pour suivre ses études. Et puis, lui aussi, il a voulu faire un camp d'étudiants. Donc, il a fait un camp d'étudiants qui était, je crois que c'est de l'UEJF. Et petite anecdote, ma mère avait fait la première session et elle avait demandé, elle a supplié de faire la deuxième session. Et mon père est arrivé à cette deuxième session. Et ce camp était à côté de l'Opège, là maintenant. C'était Madrague-Montredon. Donc mes parents se sont connus là. Et puis ils se sont mariés. Mais auparavant, je dois dire que mon père... c'est l'histoire en plus de la Shoah par balle. Mon père a perdu ses 4 frères et ses parents qui ont été fusillés en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Pologne, à l'époque, vous aviez des champs qui étaient juste des clairières qui étaient entre trois villages et on faisait venir les juifs qui creusaient leurs propres tombes et qu'après on assassinait ou avec des camions avec les gaz des camions ou carrément avec l'histoire de choix de pistolets etc.
Je crois que tu m'avais expliqué que ils ne voulaient pas partir de là-bas et c'est ça qui les a fait prendre.
Exactement.
Alors que
est parti. Il est parti pour les études et c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a sauvé. Et donc mon père donc est rentré donc il a fait donc ce camp d'étudiants. Donc il a connu ma mère et mon père a appris juste après la guerre par un de ses amis qui était retourné à l'endroit où il était en Pologne qu'un de ses frères avait eu une fille et un garçon, et que sa belle-sœur, voulant les sauver, ses enfants, voulait confier son fils et sa fille à une paysanne polonaise pour les sauver. Et la paysanne a dit « Je veux bien prendre la fille, mais le garçon, il est circoncis, je ne veux pas, j'ai trop peur. » Et donc il a appris après la guerre que cette personne l'avait confié à un orphelinat catholique et il est allé rechercher, mon père est allé rechercher ma cousine, dans cet orphelinat catholique juste après la guerre, donc dans les années 47, et il a offert cette personne à ma mère pour son cadeau de mariage.
C'est un grand cadeau.
Oui.
Et cette personne, cette fille-là, tu la considères maintenant?
D'abord, c'est plus maintenant parce que je la considérais comme ma sœur. Et elle est partie En Israël, dans les années 56, elle a fait son alia. Bon, malheureusement, elle est décédée il y a quelques années.
Bon, alors écoute, si tu veux bien, on va faire une petite pause musicale. Et en l'honneur de ta mère, ça va être une pause musicale qui nous vient d'Algérie. Mais auparavant, je vais dire à tous tes amis qui écoutent que s'ils veulent te dire un mot, s'ils veulent te poser une question, ils peuvent appeler Radio JM au 04 91 37 78 78. Merci pour votre écoute.
La ville blanche écrasée de soleil où un jour je suis né. Les rues en pente, le pont sur le Rimmel, les jardins d'oranger. Non, je n'ai pas oublié, bien que ma vie ait changé. Mais le silence est souvent une façon d'aimer. Non. Sacrifier le présent au passé. La rue qui chante l'été venu n'oublie pas l'hiver brutal. Et les blessures que l'on ne voit plus lui font encore bien mal. Tant d'espérance tout à coup balayée par un vent de folie. Tant d'innocence tout à coup étonnée d'implorer le sursis. Mais le silence est souvent une façon d'aimer. Non, 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 je n'ai pas oublié tous ces visages attristés. Mais on n'a pas le droit de sacrifier le présent au passé. Quand un orage assombrit le ciel, il faut que tombe la pluie. L'envie d'aimer la vie. Tous ces liens qui ont tressé la chaîne qui tenait le bateau. Tous ces liens qui ont craqué en laissant sur le quai nos berceaux. Non, je n'ai pas oublié, bien que ma vie ait changé. Mais le silence est souvent une façon d'aimer.
Voilà, eh bien, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio JM et ce soir, avec Alain Londner, nous évoquons son parcours qui est assez extraordinaire. Alors, non, on n'a pas oublié, c'est sûr, hein, et toi en particulier. Bon, alors, on en était arrivé à ce fameux camp où ta mère et ton père se sont rencontrés.
Exactement.
Et ensuite ?
Et ensuite, quelques années après, je suis né et j'ai eu après un petit frère que j'ai un petit peu martyrisé 4 ou 5 ans après, que j'ai un petit peu martyrisé quand il était petit. Et puis donc j'ai reçu une éducation à la maison. J'ai pas reçu d'éducation juive, mais mon père, qui lui avait fait abstraction un petit peu de tout ce qui était religieux après la Shoah, a toujours veillé que nous recevions une éducation juive.
Il a fallu. À ce propos, est-ce que ton père parlait à vous, ses enfants, de son passé ?
Non. Mon père avait fait un petit peu table rase de tout ça, parce que c'était excessivement dur. C'était le seul survivant d'une famille de cinq personnes. Mmh. C'est vrai que mes parents s'adoraient et qu'il avait trouvé une famille, il avait trouvé la joie de vivre, il avait retrouvé la joie de vivre. J'ai été élevé comme je l'ai dit à la maison d'une manière, on faisait un petit peu les fêtes et tout, mais on avait reçu une éducation religieuse à travers les mouvements de jeunesse, donc, et en particulier les EI qui ont été une partie déterminante de ma vie, puisque j'ai rencontré mes meilleurs amis, ma femme, et que on nous se revoit encore avec grand plaisir. Et j'ai reçu une éducation religieuse au Talmud Torah, et ce qui m'a quand même permis de parler, je parle encore assez couramment l'hébreu et tout, où j'ai appris beaucoup de choses au Talmud Torah. Ensuite, je me suis marié, j'ai connu ma femme.
Juste une petite chose, ton passé d'EI, c'est quelque chose qui t'a beaucoup marqué, je suppose.
Le passé d'EI, je crois que j'y suis toujours, quoi. Je me considère toujours comme un EI. D'ailleurs, quand je veux donner quand je veux jurer sur quelque chose, je dis parole d'éclaireur et tout le monde. On dit que je dis vraiment la vérité. Non. Et c'est vrai que j'ai connu, j'ai dit ma femme, mon associé, mes amis avec qui je travaille, mes meilleurs amis, et il y en a encore un qui est ici ce soir.
Pardonne-moi, je n'ai pas été EI, mais je suis ton ami quand même.
Tout à fait. Et donc, ça a été une très grosse partie de ma vie. Et donc, comme j'expliquais, après, je me suis marié, j'ai fait mes études, j'ai eu des enfants, et j'ai commencé à... pas réalisé, mais je pense que c'est une sorte de psychanalyse. Mais en fait, j'ai été élevé depuis ma plus tendre enfance dans le souvenir de la Shoah, parce que j'étais de mes deux côtés, j'étais touché.
C'est la transmission que tu as reçue. Exactement. Mais en parlant de transmission, tout à l'heure, tu as dit que ton père vous parlait pas trop de ces choses-là, et ta mère.
Ma mère, oui, un peu plus, parce que ma mère, d'abord, elle nous avait plus que lui, puisque mon père. J'ai oublié de dire qu'il n'a pas fini. Il a presque fini ses études de. Non, il a fini ses études d'ingénieur agronome, mais il a connu ma mère et il fallait manger. Donc, voilà. Il est rentré à l'époque, dans les années 47, à l'agent juive, ce qui m'a permis de connaître tout ce qui était avait rapport avec toutes les immigrations de juifs qui venaient du Maroc, qui venaient d'Algérie, qui transitaient par le camp d'Arenas. Petit, j'allais dans les fêtes du camp d'Arenas, je voyais les enfants et les adultes partir, rester un petit temps en transit et après partir.
Il est resté longtemps, d'ailleurs, je crois, en tant qu'agent juif.
Ah oui, mon père a fait toute sa carrière, l'agent juif. Malheureusement, jusqu'à... Bon, il s'est arrêté, il avait 57 ans, parce qu'il était gravement malade. Il est décédé à l'âge de 62 ans. Et bon, ce qui nous a marqué. Et comme il nous avait eu tard, et c'était un peu à la recherche... c'est pour ça, mon devoir de mémoire, je suis parti à sa recherche. Et je vais expliquer comment j'ai commencé tout mon devoir de mémoire.
Alors, avant que tu commences ce devoir de mémoire, je voudrais que tu nous dises un petit peu ce que tu entends pour toi, personnellement, devoir de mémoire. C'est quoi pour toi ?
Alors, pour moi, devoir de mémoire, c'est de retrouver d'abord ses propres racines. Donc moi, gamin, je rêvais. Parce que, en fait, j'étais entouré de copains qui avaient leur propre mémoire. Un, il me parlait de sa ville d'Algérie. L'autre, il me parlait de sa ville du Maroc. Etc. Et puis moi, en fait, j'avais rien à raconter, quoi. Puisque j'étais né ici. J'avais un peu entendu parler de la Pologne, de l'Algérie et tout, sans jamais y avoir été. Et c'est une. Et je, en fait, dans mon esprit, je voulais. Voir, sentir le pays d'où venaient
savoir tes racines, quoi.
Mes racines. Et donc, du côté ashkenaz, comme du côté séfarade. Et c'était une question qui me travaillait. En plus de ça, en dehors des origines, il y avait toute cette histoire de choix qui m'a perturbé une grosse partie de ma vie. Mais j'ai tout extériorisé. Et donc j'ai commencé mon devoir de mémoire. Et je dois une fière chandelle à Radio JM. Je vais raconter comment ça s'est
passé. Merci Radio JM.
Exactement. Parce que j'ai écouté qu'il y avait un voyage à Constantine qui se préparait, qui se faisait. J'ai dit, ça, c'est l'occasion jamais d'aller en Algérie.
C'était donc quand?
C'était il y a à peu près une trentaine d'années. Donc, bon. J'ai réussi à convaincre un de mes amis qui est avec moi. Et de partir avec moi à Constantine.
Je crois même que tu m'as dit que c'était le premier inscrit.
J'ai été le premier inscrit. Et d'ailleurs, il s'étonnait de voir un nom ashkénaze étant premier inscrit là-bas. Donc, en Algérie. Donc, juste pour revenir, parce qu'on a écouté Enrico Macias, juste une petite anecdote. On est arrivé à Constantine, et nous, on s'imaginait qu'on allait voir, parce qu'on allait voir une tour immense, parce que chaque personne qui était de Constantine, ils habitaient tous dans la maison d'Enrico Macias. Donc, on s'imaginait qu'on allait voir une tour immense. Donc, on est arrivé à Constantine. Auparavant, j'avais été voir le cousin de ma mère, que beaucoup de gens connaissent, qui est Georges Fall, qui m'avait raconté, je suis allé chez lui, je lui ai dit, avant de partir, Georges, je voudrais que tu me racontes Constantine. Je suis resté 3 heures avec lui. Donc, je suis arrivé, j'avais un peu des notions de ce qu'il fallait que j'aille voir, où il fallait que j'aille et tout. Donc, je suis arrivé à Constantine. On était dans un groupe qui était de gens qui allaient qui faisaient un voyage de pèlerinage à Constantine. Donc, moi, j'ai retrouvé l'endroit où était ma mère, l'endroit où était mon grand-père, l'usine de mon grand-père, et les tombes de mon arrière-grand-père et de ses trois femmes. Parce que,
trois femmes.
Mon arrière-grand-père paternel, il a eu trois femmes et ils étaient dans des endroits un petit peu différents dans le.
Non, mais attends, une petite question peut-être indiscrète. Trois femmes simultanément ou alternativement?
Non, trois femmes parce que malheureusement à cette époque, les femmes mouraient en couche. Et donc il a eu trois femmes successives.
Non, ça c'est autre chose.
Voilà. Donc j'ai retrouvé absolument tout. J'ai retrouvé tout ce qui concernait ma famille, là où étaient les cousins de ma mère, là où ils habitaient, où est née ma mère.
Tu connaissais les adresses?
Toutes les adresses. J'avais même des amis qui m'ont. Je suis allé retrouver leur magasin. Je suis allé retrouver. J'ai passé 4 jours entièrement à retrouver ça. Et je savais qu'il existait un juif à Constantine. Il nous a accueillis, j'ai dit qui j'étais et il m'a montré avec lui tous les endroits. Et on a terminé le voyage par une visite, mais je suis rentré sans y rentrer au cimetière de Constantine, parce que je dois préciser que je suis un Cohen et que donc je n'ai pas pu rentrer à l'intérieur tout complètement. Et à ce moment-là, quand je suis rentré dans le cimetière, à l'entrée, j'ai entendu le son du chauffard. Et je ne sais pas, ça a fait un déclic en moi. J'ai dit, j'entends ça, j'ai fait le devoir de mémoire pour ma mère. Il faut que j'aille trouver le devoir de mémoire pour mon père.
Oui. Je comprends ça, tu devais être déjà dans un certain état d'esprit.
Exactement.
Et ça t'a vraiment
perturbé.
Bouleversé.
Alors, je me suis dit, l'année prochaine, il faut que j'aille en Pologne. Mais pour retrouver l'endroit où tenait mon père, c'était un petit peu compliqué. Et j'ai appris qu'il y avait un voyage, comme mon grand-père maternel donc, a été déporté à Auschwitz, j'ai dit, bon, je vais essayer, je vais aller à Auschwitz. Et j'ai trouvé un voyage tout à fait anonyme qui était organisé par l'Amicale des anciens déportés d'Auschwitz et de Haute-Silésie. Et je suis parti avec 80 anciens déportés. Et ces 80 anciens déportés...
On a un appel ?
Exactement. Vous avez, excusez-moi de vous interrompre, messieurs, mais un appel, un auditeur qui veut intervenir.
Alors, on va l'écouter tout de suite. Vas-y. Allô ?
Alors oui, bonjour.
Bonjour.
Raymond à l'appareil. Je voulais dire d'abord que l'engagement de Alain Londner auprès de ses amis est un engagement constant, donc je voudrais le remercier pour ça et en même temps lui dire que c'était mon chef aux EI, donc je suis très fier de ça et je l'en remercie, et que je pense que les EI lui ont donné une autre vision, je dirais, du judaïsme, de l'engagement auprès des jeunes, de la vie en communauté. Et moi, la question que je voulais poser à Alain Landmer,
il vous écoute.
Comment, par rapport à ce passé, par rapport à cette belle histoire que tu racontes, Alain, comment tu as transmis à tes enfants ?
Ben, mes enfants, je leur ai transmis, parce que chaque fois que je suis revenu d'un voyage, je leur ai tout raconté. J'étais pas obnubilé, mais je veux dire, bon, c'est des histoires qui m'ont travaillé. Et puis, la plus belle récompense pour moi, c'est que ce soir, je sais qu'ils sont à l'écoute. Même s'ils ont écouté déjà ces histoires, mais je sais qu'ils sont à l'écoute. Et j'ai aussi, et je sais que ma petite fille, qui est la plus grande, est à l'écoute aussi. Voilà comment j'ai transmis les choses. Et si on doit reparler des EI, je pense qu'il nous faut pas une émission, mais plusieurs émissions.
Non,
mais,
ma question, ouais, c'est comment on transmet cette histoire complexe, chargée d'émotions, comment on peut faire partager la Shoah, le parcours de recherche par rapport à ses origines.
Ouais.
Enfin voilà.
C'est quelque chose de très personnel, ça. C'est-à-dire que moi j'ai cherché mon devoir de mémoire, mais personnel, de ma famille, de mes proches. En revanche, là où j'ai toujours veillé à ce que le devoir de mémoire soit partagé, c'est que j'ai toujours essayé de me rendre, et je l'ai toujours fait, à me rendre dans toutes les manifestations relative à la Shoah. C'est-à-dire que je n'ai jamais pratiquement manqué une cérémonie du Vieux-Port ou une cérémonie de la place d'Avielle.
Bon, je t'en témoigne, Alain.
Voilà.
Si je peux me permettre, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, à la différence de certaines personnes qui ont réellement vécu la Shoah et qui, quand elles ont eu la chance de revenir, ne parlaient pas parce que c'était tellement indicible qu'elle ne pouvait pas parler. Alain, lui, n'a eu que des deuxièmes effets, puisqu'il n'a pas connu. Et dans ce cas-là, il a peut-être plus de possibilités d'expliquer.
Non, moi.
Mais ma question était, ouais, en fait, comment, en tant que père, on transmet ce devoir de mémoire à ses enfants ?
Alors,
non, moi, ça se transmet naturellement. Il faut raconter. Je me suis débriefé quand je suis arrivé du voyage. Là, j'étais en train de parler de mon voyage en Pologne. Je voudrais terminer après. Je suis arrivé de là, parce que c'était quand même il y a 30 ans, c'était pas comme maintenant, aussi connu et tout. Je suis arrivé complètement cassé ça a duré plus d'une année, à la fois, et aussi à la fois, avec une formidable envie de vivre. Voilà. Et donc, voilà. Mais mes enfants connaissent tout. Et puis, je leur ai toujours tout raconté. De A jusqu'à Z. Et puis après, mais sans trop exagérer. C'est vrai que des fois, c'est vrai que c'est dur pour quelqu'un qui n'a pas connu, etc., d'écouter toujours les mêmes histoires et tout. Bon, moi, j'étais baigné là-dedans et j'ai exorcisé tout ça quand j'ai fait mes voyages de mémoire. Si tu me permets, Raymond, je voudrais finir parce que je pense qu'on va être un peu pris par le temps.
Je te remercie, Alain.
Et je te remercie d'avoir téléphoné.
Merci de votre appel.
Donc, merci. À très bientôt.
Merci à Raymond. Et il y a encore un autre auditeur en ligne.
Ah, d'accord. Bon. Alors, passe-nous.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bon, après l'éclaireur, c'est le chef qui appelle.
Ah, j'ai reconnu la voix.
Alors moi je voulais dire bravo pour cette émission, et je voulais dire à Alain, avec tout ce qu'il a comme autour de lui dans sa tête, après l'émission de radio, est-ce qu'il n'a pas envie d'écrire un livre?
Alors, c'est la question que je lui ai posée tout à l'heure.
Alors tu allais lui poser cette question? Bon, alors c'est moi qui lui pose.
Alors je vais vite répondre. D'abord, je suis pas un grand écrivain. Ma hantise, c'était toujours de faire les dissertes, les rédacs, etc. En revanche, ma mère a écrit son livre. Sur une idée de ma femme, on lui a offert pour son anniversaire une personne qui a écrit le livre de sa vie, quoi. Et que pour plein de raisons, j'ai pas voulu le lire. Comme je connais à peu près tout, j'ai pas voulu le lire. Je pense que c'est de la pudeur.
Oh, c'est peut-être pas seulement parce que tu connais tout.
Non, je pense que je connais pas mal de choses. Donc je voudrais quand même avancer parce que sinon je vais pas.
Allez, avant que tu continues, comme ça tu peux continuer sans nous. En tous les cas, on t'embrasse et on t'aime.
Merci.
Bisous, bisous. Alors, tu étais donc arrivé...
Dans les camps.
Non, tu avais dit, j'ai entendu le chauffard, j'ai eu envie d'aller en Pologne.
Et je suis parti. Donc,
et tu es parti.
Je me suis inscrit dans un... Alors là, j'ai pris un autre compagnon. Pour Constantine, j'étais parti avec un ami constantinois. Et pour partir en Pologne, je suis parti par un ami ashkénaz et psychiatre de surcroît. Et donc, je me suis inscrit dans un voyage... fait par l'Amicale des anciens déportés d'Auschwitz et de Haute-Silésie, donc par une démarche tout à fait personnelle, et je suis parti avec près d'une cinquantaine de déportés.
C'était il y a longtemps ?
C'était l'année d'après, c'était donc il y a 29 ans.
29 ans.
Et donc je suis parti une douzaine de jours où j'ai voyagé, où j'ai visité Varsovie, Majdanek et Lublin. Et il faut savoir, par voie de conséquence, que tous les camps de concentration étaient toujours situés à 50 ou 60 kilomètres des grandes villes. Treblinka était à côté de Varsovie, Auschwitz était à côté de Cracovie, et Majdanek était à côté de Lublin. Et je pense, comme j'étais avec tous les déportés, et la majorité était non-juifs, il y avait beaucoup de communistes, il y avait aussi des juifs communistes et tout. Et le hasard, on appelle ça comme on veut, je me suis retrouvé avec la première marche des vivants. C'est-à-dire que, en fait, je suis arrivé, c'est la première marche qui avait été organisée à cette époque-là. Et j'ai fait la première marche des vivants avec toutes les écoles, et c'était extrêmement impressionnant.
Oui, d'autant plus que je suppose, moi à cette époque-là, j'ai pas visité, mais à cette époque-là, la visite c'était pas du tout comme maintenant quand on va et qu'on voit beaucoup de folklore, etc. Non. Hein.
Moi, je suis parti d'abord avec dans le groupe où j'étais, il y avait des déportés qui allaient tous les ans amener des groupes qui avaient été déportés eux-mêmes, oui, et qui racontaient, oui, toutes leurs histoires, quoi. Mm-hmm. Et justement, j'ai juste une petite anecdote, parce que j'ai visité donc les camps, j'ai visité aussi, j'étais à Varsovie, et j'ai un des plus gros des souvenirs les plus durs, parce que les Polonais, je les porte pas trop dans mon cœur, bien évidemment, avec tout ce qui est arrivé. J'étais à la Umsteigplatz, c'est-à-dire que c'était l'endroit où les trains partaient pour Treblinka. Et je me rappelle que il y avait toutes les autorités polonaises qui faisaient un discours, et que jamais ils ne prononçaient le nom de juifs. C'était simplement des Polonais qui avaient été déportés.
Oui.
Et j'ai une image encore là qui me donne encore la chair de poule, où l'ancien grand rabbin de Tel Aviv, qui était le fils d'un des rabbins du ghetto de Varsovie, a saisi les mains le micro des mains des autorités polonaises, et s'est mis à dire, je ne vous dirai qu'une seule chose, il s'est mis à réciter le Kaddish. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai mis du temps à me remettre de tout ça. C'est vrai que c'était quelque chose de dur. Et je suis rentré, et mais j'avais pas fini mon devoir de mémoire. Il manquait d'abord d'aller revoir l'endroit où était né mon père. J'ai mis 25 ans pour organiser tout ça, mais auparavant, et c'est ce que je dois parler, on a eu quand même un autre phénomène de mémoire, puisque j'ai parlé tout à l'heure que ma mère avait été sauvée par deux justes, en fait, à qui on a fait
tous
les dossiers, et qui est un dossier extrêmement important,
oui,
pour remettre la médaille des justes. Un, pour une femme dont le fils est encore en vie, que je revois, et donc qui est le cousin de ma mère, la personne a reçu la médaille des justes à l'époque à l'hôtel de ville de Paris. Et la deuxième personne, et je disais que j'étais, en aparté tout à l'heure, je disais que j'étais encore en contact avec son arrière-petite-fille. La personne qui a sauvé ma mère, et mon oncle et ma grand-mère, à côté de Pressac, et qui s'appelait Madame Andrew, et qui au péril de sa vie, puisqu'elle est employée de mairie, avait fait tous les faux papiers et a sauvé énormément de juifs donc pendant la guerre.
C'est ce qui a justifié ça.
Et je sais, et pour vous dire mon devoir de mémoire, je sais qu'elle est à l'écoute de la radio.
Alors, donc, dis-lui bonsoir.
Et je lui dis bonsoir, bien sûr. Et c'est vrai que j'ai une excellente mémoire. Surtout, comme j'ai dit, je suis un enfant du miracle et c'est par une succession de miracles que je suis là ce soir. Et donc, pour terminer avec l'histoire de la médaille des justes, je suis retourné aussi avec cette personne. Ma mère a toujours cultivé elle l'a envoyé des chocolats et tout à cette personne qui l'avait sauvée pendant la guerre. On a toujours eu des liens. On a fait ces deux médailles des justes, mais j'avais toujours dans le coin de ma tête, en disant, bon, tout ça j'ai fait. Oui, entre-temps, pardon, j'ai oublié de parler d'une autre chose. Je suis retourné à Auschwitz, seul avec mon frère, et nous avons ensemble partagé cette visite. Lui, je crois qu'il y avait été une fois avant, une journée, et moi j'avais fait donc tout le voyage, mais c'était très bien quand même de faire ça avec quelqu'un de sa famille avec qui je suis proche et je partage.
Tu l'as fait beaucoup plus tard ?
Je l'ai fait, oui, quelques années après. Pour l'anecdote, je me suis fait passer pour sa femme dans un congrès. Voilà. Ma femme aussi a fait tous ces voyages. Elle en a fait un récemment. Donc c'est vrai qu'on a parlé les premières fois où on était. Bon, après c'est vrai que elle est allée plusieurs fois et bon, ça va, j'ai demandé s'il y avait eu des changements, etc. Et elle a fait ça avec le conseil, une fois elle a fait ça avec le conseil de l'école de journalisme et une fois elle a fait ça avec les enfants des écoles, etc.
Quel est le camp qui t'a le plus marqué?
Le camp qui m'a le plus marqué, c'est Majdanek. Et quelles sont pourquoi j'ai les images? Bon, Auschwitz, j'étais à Auschwitz et à Treblinka, mais c'est des images qui étaient vues, revues et tout. Majdanek, ça a été moins connu, et je crois que l'image les plus dures, c'était les chaussures des enfants, les cheveux, toutes les affaires et les lunettes, des wagons entiers de lunettes, et ça, chaque lunette qu'on représentait une vie. Et je crois que ça c'est ce qui m'a le plus
des marqué. Objets dérisoires qui cachent des vies entières.
Exactement, avec les valises, avec les destinations, etc. Et donc j'ai fait encore ce voyage, mais j'avais toujours ce que je disais dans ma tête, dans le petit coin de ma tête, je voulais retrouver.
Je crois qu'on a encore un appel.
Bon,
allô.
Oui, allô.
Oui, bonjour.
Oui, bonsoir. Donc, je suis le petit frère martyrisé, donc je m'appelle Marc. Voilà.
Alain sourit. Il regrette qu'il vous ait martyrisé.
Une petite note, peut-être humoristique, parce que c'est vrai que j'avais été invité par un laboratoire en Pologne et j'avais dit à la personne du laboratoire que ça ne m'intéressait en aucun cas de participer à un congrès en Pologne, mais j'avais dit que la condition, c'était que mon frère puisse venir pour que nous puissions faire autre chose. Et dans la chambre d'hôtel, en fait, quand la gouvernante est venue, j'ai dit non, we are no gay. La deuxième chose aussi, Alain est sous le coup de l'émotion, a peut-être oublié un truc. D'abord, notre maman est née en 24.
Oui, c'est
donc
ça.
Elle a bientôt 93 ans. Et la deuxième chose, c'est quelque chose qui est très important. Je ne sais pas si beaucoup de familles ont un document comme nous avons. C'est notre grand-père, quand il était dans les trains, en partant pour Drancy, a jeté un papier qui a été récupéré par quelqu'un de la SNCF et que nous avons encore. Voyez-moi aussi, il y a une certaine émotion quand j'en parle. Je peux peut-être, Alain s'en rappelle, je vais vous résumer. Le 2 juin 43, mes chers trésors, je quitte ce soir la prison Saint-Pierre pour partir à Drancy. Je suis en bonne santé. Je vous embrasse tous trois de la même étreinte. Et merci d'avance à la personne qui trouvera ce message. Et nous avons encore ce document.
Oui, voilà. Tout à fait. Ouf, c'est vrai, j'avais oublié.
Tu ne m'en as pas parlé, mais ça, c'est vraiment
très nouveau. J'ai oublié.
Voilà, et ce document, je l'ai sous mes yeux parce qu'en fait, je l'ai transmis à un cousin de ma femme qui est historien. Il voulait quelques documents que nous pouvions avoir de notre famille. Et la dernière chose, c'est que nous avons la carte d'identité de notre maman, où il y avait le tampon juif. Et c'est grâce à cette dame qui habitait Pressac, en changeant la quantité que notre maman et, sa, et son frère et sa maman ont été sauvés.
Exactement. Voilà.
Donc je laisse mon frère continuer et j'embrasse plus fort.
Merci.
Bonne soirée, merci de votre intervention.
Marc, je parle sans notes et sans rien. J'ai fait exprès de parler sans notes et sans rien. Bon, c'est vrai qu'il y a des détails qui doivent m'échapper. Mais bon, je vais essayer de continuer.
C'est difficile de continuer après une telle intervention.
Surtout qu'on a partagé énormément de choses et nous, on a le même parcours.
Alors, tu parlais de ce voyage que tu avais fait avec lui. Hein.
Donc, on a parlé de ce voyage. Donc, il a raconté ça et je disais que dans ma tête, dans le petit coin de ma tête, j'avais fait tous les devoirs de juste, etc. Mais il manquait mon père. Mmh. Et ça, c'était la partie la plus dure à organiser. Parce que mon père était né en Galicie, dans un petit village. Je connaissais personne, je savais pas comment y aller et tout. Et j'en parlais. J'essayais avec les écoles, j'essayais de joindre le père des bois. J'essayais plein de choses. Et c'est vrai que ce que je raconte, c'est vrai que ça a été une démarche personnelle, mais maintenant, il y a d'autres associations. Je pense que ça aurait été maintenant. Il y a des associations comme Valise, par exemple, où il y a eu même des émissions, je vais à la télé, sur les chasseurs de mémoire et qui aident et tout ça. Mais moi, j'ai fait tout ça d'une manière, solitaire, quoi. Et parce qu'on n'était pas aidé. Donc j'ai cherché, j'ai fouiné de tous les côtés. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est quand même assez rare, quoi. Donc pour en venir au voyage en Galicie, donc il fallait que je trouve ça. Et puis je crois pas au hasard, je crois aux rencontres. Et puis j'ai essayé par les écoles juives, rien. Et j'ai trouvé, grâce au centre communautaire, un responsable des centres communautaires qui était à Toulouse, qui m'a dit, tu sais, puisque c'est passé en Galicie, c'est à côté de Lvov, il y a un centre communautaire qui est là-bas. Et peut-être qu'ils peuvent t'aider. Et moi, j'étais prêt à tout pour aller là-bas, donc avec mon frère. Et j'ai pris contact avec ce centre communautaire. Alors, centre communautaire, il y avait très peu de juifs recensés, évidemment. Je vais raconter après pourquoi. Et j'ai demandé à la personne, la directrice de ce centre, de me trouver quelqu'un qui parle le français et qui pourrait nous guider dans cette grande ville et puis nous aider à retrouver la petite ville de mon père. J'ai mis du temps. Elle m'a répondu et puis elle m'a dit, voilà, si vous voulez, je peux mettre à votre disposition un étudiant en français qui fait des études de journalisme. Et si vous voulez prendre contact avec lui, vous êtes les bienvenus. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris contact avec lui, je lui ai expliqué un petit peu notre histoire et nous sommes partis avec mon frère. À Lvov, donc qui était la capitale de la Galicie. Il faut savoir que Lvov, c'était une capitale, une ville qui, avant la guerre, avait 300 000 juifs avec 50 synagogues. Et quand on est arrivé là-bas,
qu'est-ce qui restait ?
Il restait une synagogue. On a passé avec donc mon frère le Shabbat et il y avait une vingtaine de personnes dans la synagogue et après il y avait un rabbin américain qui était sorti de tout droit du shtetl qui faisait la prière et on a mangé dans la synagogue et là donc ce fameux journaliste qui parlait le français en fait s'est pris à notre histoire. Et donc, nous sommes partis avec lui à 100 km de Lvov, dans une petite ville qui s'appelait Bourchine, qui était donc la ville de mon père. Évidemment, on n'avait aucun élément, mais on savait que c'était Bourchine. On savait qu'il y avait un juif dans cette ville, mais en fait, c'était une personne qui était revenue après. Nous avons visité avec mon frère donc la ville. On a retrouvé, la seule chose qu'on a retrouvé, c'est le cimetière avec des tombes, mais qui était éparpillé. Et ensuite, on a, comment ça s'appelle ? Une fois qu'on a retrouvé tout ça, mais tout était, la synagogue avait disparu, c'était devenu une bibliothèque, tout ça. On n'a pratiquement rien retrouvé. En revanche, en discutant avec tous les gens autour et tout, notre guide a réussi à trouver une forêt, l'endroit où ces trois petites villes, où les nazis avaient réuni tous les habitants juifs de ces trois petites villes dans une clairière. Et ils avaient, les juifs avaient creusé leur propre tombe. Et c'est là où les juifs étaient enterrés. Donc, c'était l'endroit où je suppose que mes grands-parents et les quatre frères de mon père étaient enterrés.
Il y avait quelque chose qui
marquait. Oui, il y avait quelque chose. En fait, on a trouvé une plaque en disant que il y avait des juifs qui étaient venus ici et que là avaient été tués des juifs des villes avoisinantes. Mmh. Voilà. C'est vrai que là aussi c'était dur et mais là en Pologne en Galicie il reste rien, autant en Algérie il restait des cimetières, les villes, etc. En Pologne il ne reste rien de rien de rien de rien.
Et bien entendu les Polonais ne parlent de rien.
Ah non, de toute façon eux si vous avez qu'à écouter qu'à voir ou vous remémorer les images du film Shoah, vous verrez que pour eux ils s'en foutaient et s'ils pouvaient ils ont dévalisé des maisons et tout non, il reste rien. Que dire encore?
Il nous reste 3 minutes, nous.
Alors, je vais vite finir. Il me manquait quand même quelque chose pour le devoir de mémoire. C'était de raconter que j'ai terminé presque mon devoir de mémoire en partant à Oran, accompagné de ma femme et de ma belle-mère, et j'ai retrouvé l'endroit où était née ma grand-mère maternelle, puisqu'elle est née à Mostaganem et après elle a vécu à Oran. Si j'ai quelque chose à dire, c'est vrai que je me tiens à la disposition à toutes les personnes qui veulent entamer les mêmes démarches que moi. Et c'est vrai que j'étais au début, quand j'ai fait ça, quand j'ai commencé à raconter l'histoire, j'étais extrêmement gêné parce que j'avais l'impression de prendre la place des déportés. Mais bon, après, j'ai dit, et on m'a dit non, fais-le, parce que c'est quand même quelque chose d'assez, c'est hors du commun, quoi.
Toutes voilà. Les actions sont bonnes.
Oui,
toutes les actions sont bonnes dans ce domaine-là. En tout cas, merci, c'est très touchant et puis c'est très intéressant de savoir tout ça. Je te remercie. Ça a été peut-être un petit peu dur pour toi de remémorer non. Tous ces.
J'ai fait exprès justement de faire ça de mémoire, sans notes, sans rien. Bon, c'est vrai que il manquait des petites choses, mais je suis très heureux de l'avoir fait et je te remercie d'avoir participé à cette émission.
Je suis bien heureux de t'avoir accueilli.
Merci.
Chers amis, bonsoir. La semaine prochaine, nous nous poserons une question. Est-ce que l'art juif existe en peinture? Voilà, et en tout cas, je vais laisser maintenant la parole à Serge pour Musique à thème. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.
C'était Judaïsme pluriel, chaque mercredi de 20h à 21h. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine.